VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du vendredi 16 août 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Soudan, un ex-économiste de l'ONU, Abdallah Hamdok, a été désigné pour le poste de Premier ministre de la Transition.
En République démocratique du Congo, les députés ont été convoqués en session extraordinaire pour l'investiture du gouvernement tant attendu.
Au Burkina Faso, 3 policiers ont été tués jeudi dans une attaque dans le nord, au lendemain de la mort de 4 militaires tués par un engin explosif.
Israël a interdit l'entrée sur son territoire à Ilhan Omar et Rachida Tlaib, deux députées musulmanes américaines fort critiques de l'État hébreu.
Concernant Hong Kong, Pékin menace de ne pas rester les bras croisés, suscitant l'inquiétude du président américain Donald Trump au sujet des risques de répression violente.
Séoul annonce que la Corée du Nord a procédé aujourd'hui à des essais de 2 projectiles non identifiés.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Soudan, les chefs du mouvement de contestation ont désigné hier un ancien haut fonctionnaire de l'ONU, Abdallah Hamdok, pour devenir Premier ministre du futur gouvernement de transition. Le point avec Michel Joseph.
Abdallah Hamdok, économiste, a été de 2011 à 2018 vice-secrétaire de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. En septembre 2018, l'ex-président Omar al-Béchir l'avait même désigné ministre des Finances, mais il avait refusé le poste. Le Conseil souverain, future autorité, composé de 6 civils et 5 militaires, doit annoncer mardi s'il le confirme à ce poste. Le gouvernement devrait être formé le 28 août, en majorité par des civils, et rencontrera le Conseil souverain le 1er septembre. La transition, commencée le 4 août avec le paraphe de la déclaration constitutionnelle, durera 3 ans et 3 mois. Cette transition doit s'achever par la tenue d'élections dans ce pays de 40 millions d'habitants, dirigé pendant 3 décennies d'une main de fer par le général Omar al-Béchir. Les 300 membres de l'Assemblée législative, dont 40% de femmes, seront nommées dans les 3 mois suivant la signature de l'accord demain samedi. D'ailleurs, le jour de la signature de cet accord coïncide avec l'ouverture à Khartoum du procès de M. Béchir, inculpé de corruption.
En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale a été convoquée en session extraordinaire afin d'investir le gouvernement dont la formation est attendue depuis 7 mois. C'est ce qu'a annoncé hier la présidente de la Chambre basse du Parlement, Jeanine Mabunda. La session aura lieu du 19 août au 7 septembre 2019. Mercredi, la primature congolaise avait indiqué que le président Tshisekedi avait recalé une première mouture gouvernementale pour non-respect de la parité et du renouvellement des générations.
RDC toujours, où la fièvre hémorragique Ebola a tué 1905 personnes en une année et 844 patients ont été déclarés guéris. Le point avec Eddie Isango.
Depuis le début de l'épidémie, les cumuls des cas et des 2842, dont 2748 confirmés et 94 probables. Au total, il y a eu 1905 décès et 844 personnes guéries, a indiqué le ministère de la Santé dans son dernier bilan publié mercredi. L'épidémie déclarée le 1er août 2018 dans la province du Nord Kivu et marginalement dans celle de l'Ituri. D'après les experts, la mortalité est tombée à 29% avec les médicaments RGN et B3 et à 34% avec le MABA1-4. Tous les malades reçoivent le traitement sur base de ces 2 molécules qui ont fait leur preuve, a déclaré hier le professeur Jean-Jacques Muyembe, coordonnateur de la lutte contre Ebola. Grâce à ces nouvelles méthodes ainsi qu'un vaccin expérimental utilisé jusqu'à présent, on peut arriver à contrôler l'épidémie dans 3 ou 4 mois, a estimé l'expert congolais pionnier de la lutte contre Ebola. Les efforts de la riposte sont souvent perturbés par l'insécurité dans une zone infestée de nombreux groupes armés, mais aussi par des résistances communautaires.
3 policiers burkinabés ont été tués dans une embuscade hier dans le nord du Burkina Faso. L'incident est survenu au lendemain de la mort de 4 militaires, tué par un engin explosif. Précision de Jean-Roger Bion.
Le syndicat de la police, UNAPOL, a fait savoir dans un communiqué que cette équipe du commissariat central de police de Djibo, partie pour une mission de sécurisation d'un site de réfugiés à Djibo-Mentao, est tombée dans une embuscade. En plus des 3 policiers tués, un autre a été blessé. L'embuscade a été menée tôt dans la matinée par des individus armés non identifiés qui ont réussi à s'enfuir après l'attaque. Un certain nombre de défaillances imputables à l'État seraient à l'origine de ce drame, a dénoncé l'UNAPOL sans plus de précision. Les forces burkinabées semblent incapables d'arrêter les attaques et les djihadistes étendent leur influence dans des zones de plus en plus grandes, tandis que des milliers de personnes fuient les localités ciblées. Cette attaque survient au lendemain de la mort de 4 militaires sur l'axe Touéni-Loroni dans la province du Sourou. Le Burkina Faso est confronté depuis 4 ans à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. D'abord concentrées dans le nord du pays, ces attaques se sont étendues à d'autres régions, dont celle de l'Est, frontalière du Togo et du Bénin, qui est désormais une deuxième grande zone d'insécurité.
Au Zimbabwe, au moins 6 opposants ont été enlevés par des hommes non identifiés avant des marches prévues pour protester contre la détérioration de l'économie nationale. Ces opposants ont été enlevés par de probables agents de l'État les soirs des 13 et 14 août et ils ont été gravement torturés, a déclaré hier dans un communiqué le Front Zimbabwéen des droits humains, une coalition de 21 groupes. Le principal parti d'opposition, le MDC, a l'intention de lancer vendredi des marches de protestation. La porte-parole du gouvernement, Nick Mangwana, a dit que les autorités sont préoccupées par de telles allégations, ajoutant que des enquêtes professionnelles seront menées et leurs conclusions publiées.
Et au Malawi, attaque au cocktail Molotov contre la maison d'un leader de l'opposition qui conteste les résultats de l'élection remportée par le président Peter Mutharika en mai dernier. Selon des opposants et Amnesty International, Timothy Tambo, président de la coalition de défense des droits humains, n'a pas été blessé, mais l'un des projectiles a incendié son véhicule. Amnesty International a dénoncé cette lâche attaque, similaire à 3 autres perpétrés récemment contre des bureaux et des membres du principal parti d'opposition, dont le QG a notamment été incendié en juillet.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les autorités israéliennes ont interdit hier à 2 élues démocrates américaines, fort critiques de l'État hébreu et du traitement réservé aux Palestiniens, d'entrer en Israël et dans les territoires palestiniens. Ilhan Omar et Rachida Tlaib, les 2 premières femmes musulmanes élues au Congrès, devaient arriver ce week-end à Tel Aviv pour visiter ensuite les territoires palestiniens. Des détails avec Eric Manirakidza.
Le ministère israélien de l'Intérieur a décidé hier de leur interdire l'entrée en Israël, estimant que leur visite s'inscrivait dans le cadre d'activités de boycott anti-israélien. Cette décision a été prise en accord avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a dit qu'Israël est ouvert aux visites à une exception près, celle de gens appelant et militant pour son boycott économique, culturel ou scientifique, pour protester contre l'occupation des territoires palestiniens. Le président Donald Trump avait estimé auparavant qu'Israël ferait preuve d'une grande faiblesse s'il autorisait Rachida Tlaib et Ilhan Omar à effectuer leur visite. Selon M. Trump et Haïs, Israël et tout le peuple juif. Que le premier ministre israélien, sous la pression de Donald Trump, refuse l'entrée de 2 représentantes de l'État américain est un affront, a rétorqué l'une des 2 élues, Ilhan Omar. La palestinienne Hanan Ashrawi a dénoncé un acte d'hostilité scandaleux contre le peuple américain et ses représentants.
La Chine, qui a massé des troupes à la frontière de Hong Kong, a menacé hier de ne pas rester les bras croisés si la contestation pro-démocratie devait dégénérer dans la région semi-autonome. Le président américain Donald Trump est inquiet des risques de répression violente, disant qu'il voudrait vraiment voir la Chine résoudre humainement le problème à Hong Kong. Monsieur Trump a annoncé qu'il devait en parler bientôt avec son homologue chinois Xi Jinping.
L'état-major interarmes de la Corée du Sud a annoncé que la Corée du Nord a tiré aujourd'hui 2 projectiles non identifiés qui sont tombés dans la mer de l'Est, également appelée mer du Japon. Il s'agit du 6e lancement de ce genre depuis la fin du mois de juillet. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré début août que ces tirs constituaient un avertissement solennel adressé à la Corée du Sud et aux États-Unis en raison des manœuvres militaires conjointes menées par ces 2 pays, manœuvres que Pyongyang réprouve. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Le gouvernement gabonais a interdit la pêche et la commercialisation de la carpe du fleuve Ogoué jusqu'à la fin août. Des centaines de carpes sont mystérieusement mortes le mois dernier et flottaient sur le fleuve. Les soupçons se portaient sur des mauvaises pratiques des pêcheurs ou sur celles d'exploitants miniers illégaux aux abords de l'Ogoué. Mais les analyses ont révélé la présence anormalement élevée d'une bactérie dans l'environnement. Le président nigérian Muhammadu Buhari a demandé à la banque centrale de son pays de cesser de financer les importations de produits alimentaires. Cette initiative vise à améliorer la production agricole et renforcer la sécurité alimentaire. Le Nigeria a importé de produits agricoles d'environ 640 millions de dollars au premier trimestre de cette année. Terminons cette minute éco par l'Afrique du Sud qui exempte de visa les citoyens de l'Arabie Saoudite, du Qatar, des Émirats Arabes Unis et de la Nouvelle-Zélande pour des voyages d'affaires ou d'agrément. Ces exemptions visent à accroître le tourisme et à créer des emplois. Les Sud-Africains souhaitent à l'inverse que ces pays assouplissent les conditions d'entrée pour eux. Des discussions pour des exemptions de visa sont en cours avec Cuba, le Ghana ainsi qu'avec Sao Tomé et Principe.
Les sports à présent avec Bagasikoura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le championnat malien de football reprend après 2 ans d'interruption.
Oui, 23 équipes entrent en lice dès ce vendredi soir pour la course à la succession du stade malien de Bamako qui règne sur le championnat depuis 4 ans. Les détails avec notre correspondant sur place à Bamako, Siaka Traoré.
Ils seront en tout 23 clubs qui prendront part à ce championnat. Ils sont répartis entre 2 poules au compte de la première journée qui démarre ce vendredi 16 août pour prendre fin dimanche 18 août 2019. 11 matchs sont programmés et ce sont les régions du Nord qui donneront le coup d'envoi. À 15h, Avenir AC de Tombouctou reçoit AS Bakaridjan de Baraouli. Au même moment à Gao, c'est le Sony AC qui affrontera l'association sportive de Bamako ASB, un championnat qui augure de bonnes perspectives pour la tenue de l'Assemblée générale élective du nouveau comité exécutif de la Fédération malienne de football prévue pour le 29 août prochain. Et ils sont 3 candidats retenus par le comité de normalisation du football malien. Il s'agit de Salaha Babi, Mamoutou Touré Dibavieux et un journaliste sportif Alassane Suleiman. Les 2 premiers s'étaient déjà affrontés en 2017, mais cette élection s'était terminée en queue de poisson. Siaka Traoré, Bamako, pour VOA Afrique.
Vahid Halil Hodžić est le nouvel entraîneur du Maroc.
Oui, le franco-bosniaque succède à Hervé Renard qui a démissionné après l'élimination des Lions de l'Atlas en 8e de finale de la récente CAN. C'était face aux écureuils du Bénin. L'ancien coach du club français de Nantes a déjà entraîné au Maroc. En 1997, il avait conduit le Raja Casablanca à un 2e titre de Ligue des champions d'Afrique. Vahid Halil Hodžić a aussi été sélectionné de plusieurs pays comme la Côte d'Ivoire, le Japon et l'Algérie qui l'a conduit en 8e de finale du Mondial 2014. Il fera sa première sortie avec les Lions de l'Atlas en septembre. Ce sera face aux étalons du Burkina Faso. En match amical, le Maroc est logé dans le groupe E des éliminatoires de la CAN 2021 avec la Mauritanie, la République centrafricaine et le Burundi.
Messi, Ronaldo et Van Dijk en lice pour le prix du meilleur joueur UEFA.
Oui, l'Argentin Lionel Messi du FC Barcelone, le Portugais Cristiano Ronaldo de la Juve de Turin et le Néerlandais Virgil van Dijk, champion d'Europe avec Liverpool, ont été sélectionnés avec un jury composé de 80 entraîneurs de clubs ayant participé à la Ligue des Champions et à la Ligue Europa et de 55 journalistes. Chez les dames, le jury a retenu 3 joueuses de l'Olympique Lyonnais, vainqueurs de la Ligue des Champions, l'Anglaise Lucie Bronjo, la Norvégienne Ada Egerberg et la Française Amandine Henry. Les lauréats seront annoncés le 29 août lors du tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions. L'année dernière, c'est le Croate Luka Modric du Real Madrid et la Danoise Pernille Harder de Wolfsburg qui ont été honorés.
Début ce soir de la Liga.
Oui, le FC Barcelone remet en jeu son titre de champion d'Espagne ce soir à partir de 19h en ouverture de la Liga à Bilbao. Lionel Messi est incertain du côté du Barça pour cette rencontre face à l'Athletic Bilbao.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le nombre annoncé de postes ministériels du gouvernement qui se fait attendre continue à indigner certains membres de la classe politique. La coalition des Congolais pour la transition, CCT, dénonce cette situation et déclare mettre sur pied ce qu'elle a appelé l'autorité du salut populaire. Eddy Sango a joint à Paris le président de cette coalition, Emery Damien Kalwira.
La multiplication d'institutions dans un pays où le budget est dérisoire, un budget de moins de 5 milliards de dollars par année. Vous avez ici 26 gouvernements provinciaux, 26 parlements provinciaux, un gouvernement national éléphantesque de plus de 65 membres, un cabinet présidentiel de plus de 150 membres, et nous comprenons clairement la logique de ces gens-là. Ils ne veulent pas soulager la misère qui ronge les Congolais, ils veulent s'enrichir. Et pour donc apporter la réponse aux attentes très longues du peuple congolais, notre coalition, notamment, a pensé utile de mettre en place une équipe parallèle sur laquelle les Congolais peuvent compter pour aspirer à un véritable changement. C'est nulle part au monde. Même la Chine, qui est un grand pays du monde, n'a pas 65 ministres nationaux. Même les États-Unis, qui sont la première puissance du monde.
Vous parlez de la longue attente alors que le Premier ministre Sylvestre Ilunga dit que, vu le caractère sérieux de cet exercice, cela ne laisse aucune place aux effets d'annonce. Est-ce que vous ne pensez pas que ce soit aussi sérieux pour prendre autant de temps pour mettre les gouvernements en place?
Ils sont plutôt en train de se battre sur le partage du trésor public. Ils se battent pour voir qui va avoir beaucoup d'argent, qui aura combien. Ils ne se battent pas pour mettre en place un gouvernement responsable d'hommes et de femmes intègres, probes, qui travailleront pour le peuple congolais.
Entre-temps, la situation sécuritaire et même dans l'ensemble n'est pas aussi reluisante que ça. Les jeunes gens à Beni veulent prendre les armes et l'armée les met en garde. Quelle est votre réaction?
Le gouvernement devrait montrer qu'effectivement, nous voulons la paix dans cette partie du territoire. Nous devons encourager ces jeunes puisqu'ils sont les mieux placés pour leur sécurité. Ils savent d'où viennent les criminels. Donc, si l'armée interdit aux jeunes de s'organiser pour mettre fin aux crimes récurrents à Beni, ça voudrait tout simplement dire qu'il y a une complicité au sommet. L'État ne doit pas être absent. C'est depuis plus de 5 ans maintenant. Il y a eu plus de 5 000 personnes civiles égorgées comme des moutons à Beni. Le gouvernement n'a jamais rien fait. Les FARDC n'ont jamais rien fait. Le monde entier qui est représenté au Congo par plus de 57 armées étrangères réparties en 22 casques bleus n'ont jamais réussi à ramener la paix à Beni. Donc nous pensons que l'armée devrait plutôt encourager ces jeunes à s'enrôler dans l'armée et à défendre cette partie du territoire.
Emery Damien Kalwira, président de la coalition des Congolais pour la transition.
VOA Afrique, 24h/24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a promis dans son discours à la nation à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance de son pays d'exploiter le gisement d'hydrocarbures découvert récemment dans la cuvette en respectant l'environnement. Il a aussi promis de relancer l'économie congolaise. ce qui est impossible selon Teilama Miabe, coordonnateur national du National Congress for Democracy, une ONG basée à Washington. Au micro d'Irénée Herman Ungbo, il a expliqué que le gouvernement de Brazzaville a déjà atteint ses limites.
Ce discours-là, ça fait 22 ans que nous l'entendons. C'est le même discours, mais il n'y a pas de changement sur le terrain. C'est ce que les Américains appellent du blablabla. On écoute, c'est les mêmes choses qu'on répète. Tout est dans la forme et dans le concret, il n'y a absolument rien du tout. La vie des Congolais n'a pas changé. De toutes les façons, il a parlé de la découverte du pétrole. Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des croissances de production pétrolière au Congo.
Tout au long de son discours, il a promis quand même en faire une bonne gestion. Est-ce que cela augure d'un espoir pour une relance de l'économie du pays?
Non, absolument pas. Je crois fondamentalement à cette théorie qui dit que la succession des événements et des phénomènes est due au principe de la causalité. C'est-à-dire que dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc en définitive, un gouvernement qui est conduit par M. Sassou Nguesso ne permettra pas de développer le pays parce qu'il a eu 21 ans, 22 ans de pouvoir pour le faire. Il y a eu des surplus budgétaires qui étaient énormes, qui sont rentrés dans les caisses de l'État. Mais où est le développement du Congo? Aujourd'hui, le Congo est venu se plier au Fonds monétaire international pour qu'on leur prête de l'argent encore. Et la question fondamentale que les Congolais continuent à se poser, c'est où sont passés ces milliards.
Mais si tout était si mauvais, le Congo n'allait pas obtenir la confiance des institutions qui lui prêtent de l'argent?
Non, vous savez, le Fonds monétaire international a des obligations vis-à-vis des pays membres. Vous savez, le cas du Congo, c'est ce cas particulier où, en fait, on n'aurait même pas dû prêter de l'argent au Congo-Brazzaville. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a eu des excédents budgétaires. Mais la réalité, à long terme, nous allons revenir sur cette décision quand les choses changeront.
À quand le changement, alors?
Le changement viendra, quelle que soit la durée de M. Sassou Nguesso au pouvoir. Le Congo changera. Il y aura un jour où les Congolais se retrouveront tous et feront leur synthèse de cette histoire. Du gouvernement de M. Sassou Nguesso, et on a des éléments aujourd'hui pour repartir vis-à-vis du Fonds monétaire international pour leur dire que vous avez prêté de l'argent au Congo-Brazzaville, vous n'aurez pas dû, parce que vous le savez, ils le savent. Donc nous disons simplement que le changement arrivera. Je ne sais pas quand, mais si Kadhafi est parti, si Saddam Hussein est parti, si Mobutu est parti, tous les grands tyrans et dictateurs du monde sont partis, lui aussi il partira.
Joint ici même à Washington, Teilama Miabe, coordonnateur national du National Congress for Democracy.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Maroc, être une femme et se baigner à la plage n'est plus un loisir. Les femmes sont harcelées simplement parce qu'elles portent un maillot de bain. Une campagne de résistance a été lancée sur les réseaux sociaux sous le hashtag « Sois une femme libre ». Mais rien n'y fait car les préjugés ont la peau dure dans ce pays musulman, nous dit Idriss Fall, qui a joint sur une plage non loin de Casablanca Khadija Rabah de l'Association des droits des femmes marocaines.
Moi, je suis à la plage de Fiderhal. C'est une plage à 45 minutes de Casablanca. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de familles. Mais le problème, c'est que de plus en plus, les femmes ne peuvent plus porter de maillot de bain tranquillement. Avant, les femmes portaient des maillots de bain, se baignaient et circulaient dans la plage. Maintenant, on a de plus en plus des regards qui sont sur le corps des femmes. Et des fois, qui mettent les femmes mal à l'aise, ça montre qu'on a regretter.
Les hommes qui vous regardent, est-ce qu'ils vous font des reproches? Ils vous accusent de quelque chose?
Pour eux, la place de la femme, c'est vrai qu'elle peut être dans une plage, mais elle ne peut pas être avec un maillot de bain. De plus en plus, on voit qu'il y a une régression sociétale et que les gens sont en train de regarder le corps à une femme avec un maillot de bain, c'est comme un péché.
Mais il y a quelques années, ce n'était pas comme ça au Maroc. Comment expliquez-vous ce recul?
Oui. C'est avec le discours qui circule dans les médias, dans les journaux, dans les espaces médiatiques, dans la télévision, etc. Et aussi avec la montée du conservatisme. On ne peut pas nier qu'il y a une montée de conservatisme dans la société et que ce conservatisme, il est là même, il est placé dans les rues. Donc, et il y a beaucoup d'harcèlement. Malgré que le Maroc a adopté une loi contre la violence à l'égard des femmes, mais la mise en application de cette loi n'est pas encore appliquée. Elle n'est pas conforme avec tout ce qui se passe dans la réalité.
Donc jusque-là, la femme marocaine ne dispose pas d'une totale liberté.
Non, la femme marocaine jusqu'à présent ne dispose pas de son corps, elle n'est pas encore une femme libre. Il y a beaucoup d'interdits, il y a beaucoup d'interdits.
Beaucoup de femmes préfèrent maintenant aller vers les piscines que d'aller à la plage.
Beaucoup de femmes préfèrent des plages privées, des piscines, etc. Sincèrement, je pense que à ce niveau-là, il faut avoir le courage d'aller. Moi, je suis en famille, je suis dans la plage, et je porte mon maillot de bain et j'exige que c'est mon espace de liberté et c'est mon droit en tant que citoyenne.
Mais en fait, ce phénomène n'est pas seulement particulier au Maroc. C'est la même situation en Algérie, en Tunisie, en Égypte et même en Arabie Saoudite aussi.
Ah, on ne peut pas confondre l'Arabie Saoudite. On ne peut pas confondre parce que ce qui se passe à l'Arabie Saoudite, c'est beaucoup d'interdits. Au Maroc, ce n'est pas la même chose. Ce qui se passe, par exemple, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, les femmes ont plus d'espace et sont là dans l'espace public. La femme saoudienne, il y a beaucoup d'interdits. On ne peut pas comparer l'incomparable.
Khadija Rabah de l'Association des droits des femmes marocaines.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
À quelques kilomètres de la jungle urbaine de Johannesburg, une jeune Sud-Africaine s'est lancée le défi de sauver les abeilles, développer l'apiculture dans les villages afin de préserver l'environnement et booster l'économie locale. Telle est l'entreprise de Porsha Maroudi. Asma Botmi-Clark a été à sa rencontre.
Porsha Maroudi est ce qu'on appelle une héroïne des temps modernes. Cette Sud-Africaine a décidé il y a 7 ans de consacrer sa carrière au sauvetage des abeilles et avec elle, l'agriculture locale. Son but, sortir les villageois sud-africains de la pauvreté grâce à la production de miel local biologique.
Le chômage est si élevé dans les communautés rurales. Les gens ne sont pas éduqués, mais ils ont des ressources naturelles qu'ils ne mettent pas à profit. Et c'est à ça que nous avons pensé, leur apprendre comment utiliser les ressources dont ils disposent et le faire grâce à l'apiculture.
Inspiré par son grand-père, Porsha Maroudi a créé The Village Market, un marché virtuel sur lequel elle revend le miel des villageois. Elle enseigne ainsi l'apiculture aux fermiers et installe des ruches sur leurs terres cultivées sans pesticides. Tabon Dalla, agriculteur.
Avant, toutes ces fermes étaient négligées. Mais si vous allez faire un tour maintenant, vous pouvez voir qu'il y a plus d'activité. Cela est dû au Village Market parce qu'ils nous donnent accès au marché. Ils nous trouvent des clients pour nos produits, une clientèle type qui motive la communauté et qui nous pousse à vouloir continuer dans le secteur de l'agriculture.
Ambitieuse, la jeune femme a déjà installé plus de 800 ruches dans tout le pays. Elle veut aussi redonner aux jeunes le goût du travail de la terre.
Ces terres étaient des fermes cultivées il y a quelques années. Mais quand les grands-parents décèdent, les jeunes ne savent pas quoi faire de la terre et ils l'abandonnent.
Depuis 2012, le projet s'agrandit. La formation en apiculture s'est aussi étendue aux enfants de plus de 10 ans.
Porsha Maroudi, créatrice du Village Market.
Nos enfants ont besoin d'une planète où vivre et leurs petits-enfants aussi. Alors sans les abeilles, il n'y a pas de nourriture. Alors pourquoi ne pas tous s'y mettre? C'est une cause qui en vaut la peine.
Cette année, les efforts de Porsha Maroudi seront récompensés par un prix, celui de la femme la plus influente des pays de la région SADC.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
À partir
partir du mois de septembre, VOA Afrique vous présentera Learning English, un programme entièrement en anglais pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. La lecture posée, les phrases et le vocabulaire ont été spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. À très bientôt, tous les soirs à 21h30 TU, après English USA, sur FM, sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Calvin Fowler. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sudoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.